France Inter. Nous sommes de chair, de fer, d'amour et de colère, mais bien vivantes, puissantes, sous nos blessures sanglantes. Nous sommes Frida Kahlo, du haut de sa colonne, des clous trouant sa peau, sa souffrance qui résonne. Nous sommes plaies et cassures, cicatrices et douleurs sur nos corps, dans nos cœurs, la rage pour seule armure. Et si je suis de chair, de celles qui ont peur, tremblent, doutent, se perdent, pleurent, je suis aussi de fer, forgé pour résister, droite et fière de lutter.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Bienvenue Charlotte Puiseux.
Bonsoir.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on entend là ? Vous reconnaissez ?
Oui. C'est une musique issue d'un spectacle de Sins Invalides.
Ouais.
Donc c'est une troupe états-unienne de personnes handi-queer.
Ouais. Donc handicapées et queer.
Queer, voilà.
Voilà.
Personne crip quoi, mais ouais. On reviendra dessus. Oui, que j'ai découverte au début de mes travaux de recherche.
Ouais.
Donc au début de ma thèse, et ça a été une vraie révélation pour moi, cette troupe, parce que c'était un peu ce que j'attendais depuis quelques temps.
Et... Pourquoi ? En quoi ?
Bah, parce qu'en fait, c'était une explosion de beauté, de fierté, voilà, de personnes handicapées qui étaient fières d'être ce qu'elles sont, de se revendiquer belles, désirables, sexualisables... Tout ce que j'avais envie de dire, mais que bon, moi, de mon petit niveau, je n'avais pas la possibilité forcément de faire entendre. Et là, du coup, c'était mis en scène, c'était montré aux yeux du monde. Donc pour moi, ça a été vraiment une révélation et une troupe qui m'a suivie dans toutes mes recherches, ma thèse, puis voilà, même après... personnellement, que j'aime beaucoup.
Alors, on retrouve un peu de ce chemin de recherche dans ce livre, hein, De chair et de fer, premier livre que vous publiez. Vous êtes docteur en philosophie. Actuellement, vous êtes militante anti-féministe, on dit ça comme ça, ça vous va ?
Oui.
Quel est votre rapport à l'écriture ?
L'écriture, ça a toujours été vraiment important pour moi. Ça m'a suivi aussi à l'adolescence, où j'écrivais des poèmes, comme j'ai dit dans le livre, parce que du coup, ça m'a aussi servi l'écriture à extérioriser certaines difficultés que je pouvais rencontrer à l'adolescence. J'avais besoin de mettre ça en mots. Alors, c'était pas forcément pour les faire lire, parce que justement, comme j'ai dit, j'interdisais, j'avais accroché les poèmes dans ma chambre, mais j'interdisais aux gens qui rentraient, notamment mes parents, de les lire. Mais voilà, c'était important pour moi. Ça me faisait vraiment du bien d'écrire aussi, psychologiquement, pour voilà, m'aider à surmonter les difficultés que j'ai pu rencontrer. Et puis après, bon... Il y a eu ma thèse où c'était un autre style d'écriture. Mais l'écriture aussi littéraire a toujours été importante pour moi. Et c'est pour ça notamment que j'ai voulu mettre les poèmes dans le livre.
Oui, et c'est l'un de vos poèmes que j'ai lu au tout début de cette émission. Dans ce livre, De chair et de fer, on est à mi-chemin entre souvenirs personnels et réflexions politiques dans un récit-essai dont le sous-titre est « Vivre et lutter dans une société validiste ». Pour qu'on comprenne bien de quoi on se parlait dès le début, le validisme c'est quoi ?
Alors pour résumer, le validisme, c'est le système oppressif qui cible les personnes handicapées. Donc c'est l'idée en fait que la vie des personnes handicapées a moins de valeur dans notre société que la vie des personnes valides. Et vraiment, on parle de système au sens de où ça touche toutes les sphères de la vie quotidienne. Hein. Voilà, vraiment tout ce que vous pouvez vivre au quotidien, aller à l'école, travailler, trouver un appart,
prendre les transports,
se déplacer, se faire des amis, avoir une vie amoureuse, aller voir un médecin, aller au cinéma. Tout ça, c'est vraiment impacté par le validisme. Et puis aussi, l'idée, c'est que ça touche toutes les personnes handicapées à des degrés plus ou moins divers. Mais en fait, ce qui est vraiment important, je pense, c'est que de comprendre, c'est que le validisme, c'est une histoire collective, en fait. C'est un vécu collectif. Et à l'inverse, dans la société validiste, on nous fait toujours croire que nos histoires sont individuelles, c'est personnelles. Du coup, ça nous isole, en fait.
Et que tout va être plus ou moins de notre faute et plus une question de volonté.
Exactement, voilà. Exactement.
Alors, vous vous racontez comment, dès vos tout premiers mois d'existence, dès l'énoncé du diagnostic, une myopathie qui ne vous laissait, d'après les médecins, que très peu de temps à vivre, vous vous êtes bagarré à l'école, à la fac, à la maternité, pour vous faire une place au soleil dans cette société qui ne voulait pas de vous. Aujourd'hui, vous êtes là. Et bien là, autrice, militante, chercheuse, docteur en philosophie, mais encore, qui voyez-vous quand vous regardez dans ce miroir? Prenez ce miroir, prenez le temps de vous regarder. Dites-nous, Charlotte Puiseux, c'est qui quand elle se voit, quand elle se regarde et qu'elle se sourit? C'est déjà un bon début.
Bah après, c'est vrai que le rapport au corps, à mon corps, a toujours été un peu compliqué. Et c'est ce que je me disais, c'est qu'au final, se voir dans un miroir, quand on est tétraplégique comme moi, c'est pas évident parce qu'en fait, on se voit là, habillé quand on est... Voilà, on peut se croiser devant un miroir dans un appartement. Mais on a peu, voire pas l'occasion, en fait, de se regarder, par exemple, nu dans un miroir. Parce que pendant la toilette et tout ça, c'est pas nous qui faisons les gestes. On a une auxiliaire de vie. Donc c'est vrai qu'on va pas forcément lui demander « Tu peux amener le miroir, je voudrais me regarder. » Donc, au final, on connaît peu notre corps. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et c'est ce que j'ai aussi entendu de la part de personnes qui ont le même type de handicap que moi. Et du coup, c'est vrai que en fait, se regarder dans le miroir, c'est un peu se réapproprier son corps. Mmh. Et c'est ça qui est toujours un peu en lutte, je pense aussi pour moi. Je vais pas parler au nom des autres, mais je pense que ça peut faire écho à d'autres personnes.
Et je vois qu'effectivement, vos yeux se posent sur vous et puis repartent très vite. C'est un
chemin. La question de se réapproprier son corps, c'est une lutte toujours permanente, je pense, pour moi, avec des hauts, des bas. Il y a des moments, c'est mieux, il y a des moments, c'est plus compliqué.
Après, je vous demande un truc un peu chelou, c'est de vous regarder dans le miroir sous mon regard à moi. Donc, j'admets que ce soit... pas très simple. Qu'il soit de chair ou de fer, il est beaucoup question de rapport au corps dans votre livre, Charlotte Puiseux. Vous vous attaquez au désir, au plaisir, au beau et à ses représentations, surtout à ses codes, ses schémas qui ne pardonnent aucun écart, aucun pli, aucune bosse. Et vous dites, écrire sur le validisme, c'est contribuer à renverser les normes de ce système, à affirmer la valeur de nos vies, la beauté de nos corps déformés et la force de nos faibles esprits. C'est renverser les stigmates pour en faire des sources de fierté. C'est faire couler de l'encre au lieu de notre sang.
Les âmes s'assoupissent sous la chaleur intense et les palmiers s'en balancent, des rigoles d'immondices. Notre pays embourbé où le peuple est un gueux et le ciel est suspect d'être si beau et si bleu. Chaque jour est une peine vaine sous l'astre brillant. On muselle les rêveries depuis bien longtemps. Le futur paraît vain, le tyran si puissant. Mais même d'où proviennent ces chants, ces voix que l'on entend? Pâteuse de rêves, un jour se désaltère, humidifie ses lèvres, libère ce qu'elle retient, les formules qu'elle célèbre et le pays qui vient, renverse la dictature, piétine ses statues, on repeindra les murs, m'a dit l'homme de la rue, dépoter le despote, planter des fleurs nouvelles, additionner nos cœurs, en faire des archipels. nous abrite un jour. On se lève pour être libre, on débat, on s'agite. Au départ, on évite la violence qu'ils impliquent, qu'ils renvoient, qu'ils appliquent. On répond par des rimes, on s'invente des rites. On déconstruit leur mythe, on refuse la fuite. Ils nous traquent aux satellites, nous envoient l'arme et les flics. L'humeur est sismique, donc un jour, on réplique. C'est le fracas dans la ville, la bravoure du civil. Et la force vient de loin, de l'amour, de la vie. On affronte le destin, chauffé à blanc sont les poings. Et l'on frappe, on riposte le regard vers demain. Et l'espoir qui nous porte nous aide à tenir. On écrit aujourd'hui les poèmes à venir. Bien qu'on tombe constamment sous le feu de leur haine, s'ils nous enterrent, ils perdront, car nous sommes des graines.
Gaëlle Faye sur France Inter, des graines, et on va les planter, ces petites graines de la normalité, et on va les regarder pousser nos singularités. Et avec vous, Charlotte Puiseux, on va se raconter comment, peu à peu, c'est notre rapport au handicap qui doit, qui va, qui peut changer, et comment vous, vous êtes passé, écrivez-vous, d'objet de soins à sujet de droit. Militante handi-féministe, docteur en philosophie, vous signez cet essai de chair et de fer. On l'ouvre, on y plonge, on emprunte vos pas ce soir. Vous êtes notre invitée.
France Inter. En marge.
La meilleure dame, lagrima blue, à la folie.
Ah, je vois une petite tête qui dodeline, je vois un sourire sur ce visage. Est-ce qu'on aurait reconnu ce qui se passe là?
C'est le générique de La Famille Formidable.
Mais oui, mais évidemment. Alors, je précise, pour ceux qui, je sais pas, je sais pas ce qu'ils auraient fait, c'est entre 80, dans les années 90-2000, en gros, c'était le carton télévisuel de TF1, Une Famille Formidable, avec Catherine et Jacques Beaumont, et leurs enfants, et leurs beaux-enfants, et leurs petits-enfants, au bout d'un moment, aussi avec ce qu'il faut de portes qui claquent, d'embrassades, de grandes tablées au soleil. Vous la regardiez avec votre mère, cette série, je crois?
Oui, voilà, j'avais une dizaine d'années, et c'est vrai que on regardait ça avec ma mère. C'était un moment sympathique où voilà, moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille très unie aussi. Voilà, avec mes grands-parents, mes cousins. Donc c'est vrai que ça, voilà, ça.
Il y avait quelque chose qui vous parlait dans cette famille,
voilà,
formidable.
C'était sympathique, c'était un bon moment qu'on passait en famille aussi à regarder cette série.
Alors famille unie, famille clanique presque, hein. Tout le monde bosse dur pour faire tourner l'entreprise familiale. Vous vivez, vous, en HLM, dans le sud de Paris, avec vos parents Catherine et Alain. Catherine et Alain veulent un enfant. Catherine et Alain ont un enfant, une petite Charlotte, qui naît le 17 août 86. On est en pleine chaleur du mois d'août. Le ciel est limpide, on y voit assez clair pour savoir ce qui nous attend devant les nuits qui vont s'apaiser, ce bébé qui va se calmer, les premiers biberons qui vont arriver, l'entrée à la crèche et les premiers pas. Ça, c'est l'autoroute 5 voies sur laquelle vos parents sont lancés avec vous. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe à la crèche, pour vous et pour vos parents?
Bah, la crèche, en fait, c'est là où la médecin de la crèche commence à dire à mes parents que je suis un peu hypotonique, voilà, que j'ai pas forcément les réflexes d'un bébé de mon âge, que je, voilà, je fais pas les mouvements que devrait faire un bébé de mon âge. Donc elle commence à alerter mes parents, et puis bah, là commence tout un processus de visite médicale, et puis voilà, assez vite le diagnostic est tombé. Hein.
Et ils tombent, les médecins ne mâchent pas leurs mots. Hein. Ce qui tombe, le diagnostic, c'est maladie génétique, myopathie, il y a quelques mois à vivre. Et les médecins rajoutent, votre enfant est en sursis, ne vous attachez pas à elle.
Voilà, c'est ça. Bah, l'idée, c'était de me placer dans une institution spécialisée pour voilà, me laisser mourir tranquillement. C'était l'idée transmise à mes parents, donc c'était, oui, j'avais quelques mois, quelques années tout au plus à vivre, donc il fallait pas s'attacher à moi, il fallait me mettre à l'écart et m'oublier dans une de ces institutions spécialisées.
Sauf que pour vos parents, c'est hors de question, évidemment, que vous restez à la maison, une maison qui sent bon, Anaïs, le parfum de votre mère, le goût des pommes de terre chocolat, entendrez très grillé que cuisine votre grand-mère. Dans la cour joue Sassy, petit chat abandonné que vous avez recueilli et baptisé. Dans le couloir, on entend le bruit d'un fauteuil électrique, le vôtre, tous les soirs, toute l'année, mais non, pas ce soir-là, chaque année, tout le monde, devant la télé, on se tait.
Le président de l'AFM dans les bras de Jerry Lewis. Jamais Nuit Blanche n'aura été vécue avec autant de joie et d'émotion. 29 heures d'efforts sans relâche pour arriver à cela, une enveloppe de 180 millions 327 459 francs. Les responsables de l'AFM escomptaient au mieux 50 millions. Ce téléthon organisé par Antenne 2, premier cocktail du genre en Europe, est une totale réussite. Pourtant, au départ, il y en avait des ingrédients, la technique. Antenne 2 avec tous ses moyens, la SFP, Radio France, les télécoms, l'armée.
Ça, c'était très exactement le 4 décembre 1987 sur Antenne 2, le tout premier téléthon. Vous aviez Charlotte Puiseux quelques mois. Cinq ans plus tard, vous serez sur l'affiche de l'émission. Vous êtes le visage du téléthon à ce moment-là. Dans vos yeux de petite fille, à l'époque, hein, comment est-ce que vous la regardez cette soirée? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment est-ce que vous, vous vous sentez?
Bon, déjà, c'était aussi un peu un jeu pour moi. J'avais 5 ans, passer à la télé, voir les stars autour de moi. Il y avait quelque chose d'assez jouissif et de jeu, quoi. C'était ça aussi pour moi. En tant que petite fille, je ne réalisais pas du tout tout ce qui se passait en termes de discours, de politique. Hein. Évidemment, à 5 ans, on n'est pas du tout là-dessus.
Vous écrivez « On s'intéressait à moi, voilà. On me voyait ».
C'est ça, le deuxième point que j'allais aborder, c'était cette impression, en fait, que tout d'un coup, mon handicap était quelque chose de positif, qu'on voulait mettre en avant, dont on voulait parler, alors que le reste du temps, on se prenait tout le temps des réflexions dans la tête. Moi, mes parents, ma famille, on nous refusait à l'école. Dehors, on pouvait rencontrer des personnes qui avaient des réflexions pas sympathiques. Donc le reste de l'année, il fallait cacher, enfin, si on pouvait, le plus possible, cacher le handicap ou essayer de le gommer le plus possible. Et là, tout d'un coup, c'était quelque chose qu'on voulait mettre en avant. Donc pour moi, il y avait ce côté, on s'intéresse à moi. Mon handicap n'est pas quelque chose de mal et de mauvais. Mais après, comme je le dis toujours, quand je voyais les résultats finaux, j'avais quand même toujours un petit goût amer au fond de moi. Je ne pouvais pas analyser à l'époque. En fait, j'étais trop petite. Mais en fait, je n'étais pas satisfaite de ce qui, finalement, passait à la télé. Notamment dans les reportages que moi j'ai pu faire pour le Téléthon. Mais...
Qu'est-ce qui ne vous allait pas?
Ce qu'on montrait de moi ne me plaisait pas. C'était pas ça que je voulais montrer. C'était pas cette image-là que je voulais donner. Je voulais pas donner l'image d'une super-héroïne, petite fille, qui transcende son handicap, comme on dit souvent, qui vit sa vie malgré son handicap. C'était pas ça que je voulais montrer. Moi, je voulais juste dire, j'existe, je suis là, tel que je suis. Ma vie, elle est chouette. ma vie, elle est autant chouette que la vôtre.
Aujourd'hui, vous le regardez tout à fait autrement, ce Téléthon, et vous avez, par vos recherches, par votre travail de chercheuse, réussi à mettre des mots pour cette petite fille qui, elle, à l'époque, n'en avait pas. Aujourd'hui, vous dites quoi du Téléthon?
Aujourd'hui, je dis que le Téléthon dépolitise la question du handicap. Vous parliez tout à l'heure... de la phrase qui n'est pas de moi, hein, qui est une phrase qu'on retrouve beaucoup dans les luttes antivalidistes, à savoir qu'on nous considère plus comme des objets de soins que comme des sujets de droit. Le Téléthon, c'est purement ça. On est des objets de soins, souvent des petits-enfants, faut dire ce qui est. C'est comme ce qui est beaucoup mis en avant dans le Téléthon, qui sont présentés comme ayant pour seul but de guérir, de devenir le plus valide possible, en fait. C'est ça qui est compliqué dans la notion de guérison, à mon sens. Parce que certes, il y a des handicaps qui mettent la vie en danger et c'est important d'y apporter des soins. Mais je trouve que dans le discours du Téléthon, c'est aussi très porté sur une notion validiste de la médecine, à savoir qu'on veut faire marcher les enfants, comme si marcher, c'était vital. On veut les rendre plus valides.
Vous dites, alors oui, le Téléthon, c'est aussi beaucoup d'espoir, c'est du soutien, c'est des nouvelles pistes thérapeutiques. Et puis, pour vous, ça a été aussi ce qui vous a conduit à un suivi à l'hôpital de Garches, qui est un centre référent pour les enfants atteints de myopathie. Et là, à Garches, vous dites, moi, j'ai enduré des heures et des heures et des heures de torture pour marcher. Moi, j'ai pas envie de marcher, en fait.
C'est ça, en fait. C'est que ce que je disais, dans la médecine, dans le parcours de soins, il y a toujours une ambivalence et c'est toujours très en tension entre ce qui est du ressort du soin vital.
En ce qui vous concerne, la cage thoracique, c'est ça, et la possibilité de respirer.
C'est
donc ça, ok.
Exactement. Et après, ce qui est plus du ressort du validisme, à mon sens, c'est-à-dire du désir de redresser des corps pour les rendre le plus valides possible. Et là, pour le coup, tout ce qui est... comme je dis dans le livre, on combat beaucoup les flexames de genoux, les pieds qui tournent, les poignets. Tout ça, à mon sens, c'est pas vital. Moi, j'ai jamais pu tourner mes mains toutes seules, ça m'a jamais empêché de vivre. Mes genoux, j'ai jamais pu les poser à plat, ça m'a jamais empêché de vivre non plus.
Et vous aviez à l'époque, dites-vous, une armure de Robocop, et pour ça, c'est des heures et des heures pour les installer, ces appareillages, pour changer de modèle, parce qu'ils doivent vous suivre, j'imagine, dans votre croissance à différents moments de vie, etc. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, alors qu'on pourrait, par exemple, juste abaisser des trottoirs ou mettre des rampes partout. C'est ça l'idée?
Après, je pense que les corsets, dans mon cas, c'était inévitable, justement, parce que le problème de la cage thoracique, c'est que c'est ma scoliose, en fait. C'est qu'on a une scoliose qui est très importante et qui, du coup, obstrue la cage thoracique. Mais c'est la façon de faire, en fait. Enfin, ça s'apparente à de la torture, clairement. Après, je pense que, bon, on ne peut pas réécrire le passé. C'était aussi une autre époque. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre devoir, enfin, en tout cas, le devoir des politiciens, de ceux qui gèrent les hôpitaux, c'est de réfléchir à d'autres systèmes, parce que je pense qu'il y a moyen de trouver d'autres systèmes pour faire des corsets que celui qu'on a connu. Et je pense malheureusement celui qui est encore aujourd'hui utilisé.
Et puis il y a le corset, vous dites, et puis il y a la marche, c'est-à-dire qu'il y a aussi le moyen de repenser la ville
pour que
le déplacement soit facilité.
Ah, ça, après, oui, c'est l'accessibilité, c'est un combat antifalidiste presque numéro, j'ai envie de dire.
Vous écrivez à l'époque, moi j'avais pas envie de marcher, je voulais juste aimer. Votre héroïne adolescente, c'est Hélène, comme dans Hélène et les garçons, évidemment. Tous les jours, vous avez rendez-vous avec elle devant votre petit écran. Vous vous dites que vous aussi, vous irez à la fac plus tard, que vous aussi, vous aurez des copines et puis un amoureux qui vous regardera dans le blanc des yeux. Mais ça, l'amoureux, ça fait longtemps que vous y pensez. Depuis qu'une certaine Vic et sa coupe au carré a dessiné, et pour longtemps, les contours d'une adolescence de cinéma. La Boum, Claude Pinotto, Sophie Marceau et Denise Gray.
On s'aime autant que les grandes personnes. Je sais pas, moi. Pourquoi on serait pas pareil? À 18 ans, on peut tout faire, mais alors à 14 ans...
Et toi, où serais-tu en ce moment si tu avais 18 ans?
À Cabourg. On aurait rendez-vous sur une plage. Il courrait vers moi. Je me jetterais dans ses bras. On se pardonnerait en pleurant et on coucherait ensemble.
Carrément?
Bah, pourquoi pas? Il y a la pilule.
Ah, oh, pardon, j'oubliais la pilule. Seulement la pilule, ça protège contre les bébés dans le petit ventre, mais pas contre les bobos dans le petit cœur.
Oh, je déteste quand tu me parles comme si j'avais 3 ans.
Je ne t'ai jamais parlé comme si tu avais 3 ans.
Bah où tu vas?
À Cabourg.
Je peux vous le dire, Charlotte Puiseux connaît les répliques de la Boum par cœur. J'ai lu sur vos lèvres, Charlotte. Vous vous souvenez? La première fois que vous l'avez vu, ce film?
Enfin, la première fois, pas spécialement, parce qu'on l'a tellement regardé.
Vous l'avez vu 100 fois à peu près, d'accord.
Avec ma cousine, qui a le même âge que moi. Je me souviens, on l'avait enregistré sur les VHS à l'époque. Et on le passait en boucle, quasiment. Donc, ouais, la première fois, pas spécialement, mais je me souviens d'avoir beaucoup regardé, oui.
Vous dites quoi, quand vous le voyez? Vous dites, moi aussi, un jour, ça m'arrivera?
Ah bah oui. Pour moi, c'était un peu comme La Famille Formidable. C'était un peu des clichés de la famille parfaite, de l'adolescente qui vit sa vie d'adolescente avec sa famille autour d'elle, qui se fait des amis, qui tombe amoureuse. En plus, elle habitait Paris, donc je me disais, oui, c'est un peu moi dans quelques années, voilà.
Dans la vraie vie, ça se passait comment, vous et les garçons?
Oh bah ça se passait pas, hein. C'est... Les garçons, ça a été très longtemps inaccessible, comme je disais. C'était des amours à sens unique, comme on appelle ça.
Vous dites, en fait, la question ne se posait même pas. Mais même pour vous, vous dites, j'avais tellement intégré l'idée que ces injonctions, en fait, que mon corps n'était pas aux normes, en fait, il ne pouvait pas être désirable, donc je me contentais des miettes. C'est quoi, les miettes?
Non, en fait, j'ai tombé amoureuse, hein, ça m'est arrivé, clairement. Ouais. Et je pense que je me disais, lui, il va forcément se rendre compte au bout d'un moment que je suis la fille parfaite, quoi, qu'il va aussi tomber amoureux de moi. Mais en fait, ça n'arrivait jamais.
Alors, vous faites quoi dans ces moments-là?
Au bout d'un moment, forcément, ça atteint la confiance en soi. Et le fait de se dire, il y a quelque chose qui cloche chez moi, mon corps, il n'est pas désirable, mes malformations, mes cicatrices, tout ça, c'est... Voilà, on finit par intégrer le discours ambiant, à savoir que c'est pas beau, c'est moche.
C'est-à-dire que, encore une fois, le problème, c'est pas les autres, c'est pas le système, c'est vous.
Bah oui, on rejette la faute sur nous. Enfin, on intériorise le fait que c'est nous le problème.
Et vous vivez, j'ai trouvé l'expression assez magistrale, comme une valide ratée, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'en dehors de cette norme validiste, il y a point de salut.
Bah oui, on est tellement, on est, nous aussi, personnes handicapées, dans, dans un système validiste et on intériorise ces codes. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on comprend tout de suite le validisme, etc. Hein, loin de là.
Et c'est ce qu'on vous fait sentir de toute façon à l'école, pas seulement les garçons, pas seulement dans les booms, pas seulement dans la cour de récré, mais aussi en classe. C'est-à-dire que, en gros, fais-toi le plus petit possible si tu veux ta place ici. Alors, c'est ce que vous faites les premiers temps. Vous encaissez sans broncher, vous bossez, vous êtes bon élève, meilleur que les autres même, puisque il le faut. Vous voulez intégrer une classe prépa, la conseillère d'orientation vous dit « c'est pas pour toi », sauf qu'elle se trompe et que vous y êtes reçue. Comment se passe votre arrivée en prépa ?
Pour le coup, je me souviens bien du discours d'entrée de l'improviseur qui nous avait tous réunis dans une grande salle pour nous souhaiter la bienvenue hein, et qui avait dit cette phrase qui m'avait choquée. Hein. C'était que le lycée là où j'étais était humaniste parce que cette année, il accueillait une élève handicapée.
Et donc, rien à voir avec vos notes,
voilà,
rien à voir
exactement.
Avec votre dossier, rien
c'était
à voir avec le travail abattu, voilà. C'est juste, heureusement qu'ils sont là,
voilà, c'est
et ils
ça,
sont vraiment
c'est...
sympas.
Ils sont humains et ils accueillent une élève handicapée. Quoi.
Sauf que, quand même, c'est en prépa qu'une petite fissure va se créer dans le système. Il y a une lumière doucement qui va commencer à revenir. Vous avez rencontré S. Elle est musulmane, elle est hyper cultivée, elle est militante contre le racisme, contre le capitalisme. A priori, rien à voir entre vous deux, sauf qu'en fait, elle sème en vous le germe de la révolte.
Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec l'art comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains entravés, de vivre en travers. La rage gravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes volent ton enfant. Pas imagine un mur et un poli. La rage car impossible et cette paix t'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales et belles, tout équilibre fout le camp. La rage car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le boucle? La rage c'est tout ce qui nous laisse, passons tout ce qui nous reste. Car combien des notes finiront par retourner leurs fesses? La rage de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs champs OGM stérilisent la terre. La rage jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer nos remparts. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Altermondialisme, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain, à la veille d'une révolution. Arrête du peuple, arrête du peuple. Arrête du peuple, pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle suit la populace. Et la rage est énorme.
La rage, Kenny Arcana, vous entrez dans l'âge adulte Charlotte Puiseux, vous mettez au rap et vous essayez la colère. Ce qui se passe dans cette rencontre avec votre camarade de prépa, c'est ça? Vous autorisez la colère?
Oui, après, la colère, elle était déjà en germe, j'ai envie de dire, parce que justement, en parlant de rap, je me souviens que vers mes 11-12 ans, j'étais allée à l'époque dans un magasin de disques et j'avais acheté mon premier album de rap. Et pour moi, c'était justement une façon d'exprimer ma colère que d'écouter cette musique. Donc ça avait déjà commencé, mais à l'époque, c'était encore très émotionnel. Je n'avais pas forcément analysé les choses. Et cette analyse, elle est clairement venue avec mon ami. Enfin, voilà, les discussions qu'on a pu avoir... l'engagement politique et la chanson qu'on a passée Kenny Arcana, je me souviens qu'elle passait en manif quand on faisait des manifs Et c'était un moment où je me sentais vraiment portée, en fait, par ce qui se passait, voilà. C'était un moment où je me sentais vraiment, vraiment portée et c'était très agréable, en fait.
Cette colère, cette envie d'en découdre, on la sent affleurer page après page dans votre essai de chair et de fer. Envie d'en découdre avec un système prêt aussi, voire surtout, à défendre pied à pied votre singularité. Vous écrivez, par exemple, « Quant à l'éloge de la beauté intérieure, elle n'est que rabaissement et humiliation ». Perpétuation des normes et du regard validiste sur la moindre parcelle de nos corps. Nos cheveux, nos yeux, nos bouches, nos seins, nos bras, nos mains, nos ventres, nos sexes, nos jambes, nos pieds sont bien réels. Ils sont désir, érotisme, sensualité et beauté.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Ladies and gentlemen, the Paralympic medalists.
La médaille d'or.
Champion representing France.
获得金牌和残奥冠军的是法国运动员
Arthur Boucher.
On est au dernier jeu paralympique, pardon, à Pékin. Le skieur Arthur Boucher vient de décrocher la première médaille d'or de la France. Et vous, vous dites quoi quand vous entendez ça?
La question des Jeux paralympiques, bon, c'est une double chose. C'est-à-dire que si on se situe dans le cas où on pense aux Jeux olympiques, on voit qu'il y a une vision validiste dans le traitement médiatique, clairement. Donc là, on voit que...
Parce que
Les Jeux paralympiques ne sont pas diffusés aux heures de pointe, enfin aux heures de grande écoute. Des fois, au fin fond de la nuit, peut-être, mais... Donc on voit le validisme en fait déjà dans le traitement des Jeux. Et après, en tant que personne handicapée, moi je suis assez critique des Jeux paralympiques dans le sens où, pareil, on est toujours dans un système validiste en fait, c'est-à-dire que ces personnes, elles sont présentées comme celles qui réussissent le mieux à atteindre les normes validistes, à performer avec leur corps le plus possible comme les personnes valides, mais tout en sachant qu'elles n'y arrivent jamais vraiment.
C'est-à-dire que quand on sort de la version misérabiliste et caritative du Téléthon, l'autre possibilité, c'est le super-héros ou la super-héroïne qui fait des exploits. Et donc, ça veut dire que tout ça, finalement, n'est qu'une question de volonté. Et donc, il n'y a toujours pas de système. Et donc, il n'y a toujours rien de politique là-dedans, c'est ça ?
C'est toujours une vision validiste du handicap, en fait. C'est-à-dire que, oui, ces championnes paralympiques, elles ont réussi à surpasser leur handicap. Comme je vous dis, à se rapprocher le plus possible, sans l'atteindre jamais vraiment, mais quand même, des normes valides. Et du coup, toutes les personnes handicapées, qui sont quand même nombreuses, qui ne participent pas aux Jeux paralympiques, au final, c'est parce qu'elles manquent de volonté, qu'elles n'arrivent pas à sortir de chez elles, et qu'elles n'arrivent pas à trouver du travail.
Si tu veux ta place dans la cité, ok, mais t'as intérêt à...
Si on veut, on peut. Hein. C'est l'expression bien connue,
bien sûr.
Je déteste, mais qui est assez connue.
Et puis tu ne peux pas être un lambda. C'est-à-dire que si tu es une personne handicapée, pour avoir ta place, il faut que tu sois un super-héros ou une super-héroïne.
C'est ça. Mais au final, on est toujours déshumanisé parce qu'en fait, la super-héroïne, c'est aussi quelqu'un qui est au-delà de l'humanité. Donc on n'est plus dans l'humanité.
Ce sont vos années de fac qui, peu à peu, vous ont aiguisé le regard. Il y a d'abord une licence de philo, puis un master en psycho et puis un doctorat de philo. Petit à petit, vous vous mettez à penser en termes de système, mais aussi parce que parallèlement, vous adhérez au tout nouveau NPA, nouveau parti anticapitaliste, c'est le seul parti de l'époque à avoir une commission handicap. Le fait qu'il y ait une commission handicap dans un parti politique, ça veut dire qu'on se dit qu'on peut faire bouger les choses ?
Oui, moi c'est clairement par là que je suis rentrée au NPA, parce que du coup mon ami connaissait un militant handicapé qui militait à la commission handicap du NPA.
Mais le fait que ça existe, vous dites, ok, donc on n'est pas dans l'ordre naturel des choses, on est dans quelque chose de construit cette hiérarchie entre valide et non valide. C'est ça, l'effet que ça produit sur vous ?
Oui, puis clairement, déjà, c'était une commission qui était tenue par des personnes handicapées et qui avait un discours anticapitaliste, bien sûr, mais aussi de construction sociale du handicap, qui parlait de validisme, même à l'époque. La personne dont je parle, qui m'a fait entrer à la commission, c'était une personne qui était beaucoup plus âgée que moi et qui avait du coup un parcours militant déjà assez important. Parce qu'il ne faut pas croire, mais les luttes anti-validistes, elles ont commencé bien avant les années 2000. Hein. Elles ont été oubliées, effacées, etc. Mais il s'est passé plein de choses dans les années 60, 70. Il y a eu les handicapés méchants. Il y a eu plein de choses en France. Hein. Mais ça a été totalement occulté. Et ce militant, lui, connaissait tout ça, bien sûr. Il avait même participé. Donc c'était vraiment tout un pan qui s'ouvrait à moi. Une redécouverte de mon héritage, un peu, quand même. Donc c'était une source d'inspiration énorme pour moi.
Alors malheureusement, il n'y a pas de microclimat au NPA, donc là aussi il y a du validisme, là aussi il y a du sexisme. Vous en éloignerez, mais vous continuerez à militer au sein de collectifs Andy, comme au sein d'associations féministes, voire les deux, mon capitaine, je pense par exemple aux Dévalideuses dont vous êtes membre. Peu à peu, écrivez-vous, la honte d'être anormale s'efface doucement au profit de la fierté d'être différente. Fierté comme dans Marche des Fiertés, Andy, Disability Pride, il en existe aux États-Unis comme ici à New York en 2017. Nous voulons montrer au monde notre force, notre résilience et notre puissance. Ça vous parle, ça, Charlotte Puiseux ?
Bah, notre puissance, oui, parce qu'on nous condamne tellement à être des êtres impuissants, justement, devant subir la volonté des valides dans ce monde pensé par et pour les valides. Et alors qu'en fait, je pense que justement, par la force collective, par les rencontres qu'on peut faire, on peut vraiment changer les choses et retrouver notre puissance, notre pouvoir d'action, notre pouvoir d'agir. Donc c'est vraiment important, je pense, de construire cette histoire collective, comme je disais.
La force de la différence, c'est quoi ? C'est quoi son pouvoir ?
Bah, c'est de montrer qu'on peut exister tel qu'on est, et je pense que ça sert à tout le monde. Parce qu'au final, même pour les personnes valides, on peut aussi être complexé par tout un tas de choses qui ne sont pas forcément... des handicaps, et donc apprendre à s'aimer soi-même, à s'accepter tel qu'on est et à dire qu'on a notre place dans la société, qu'on peut être aimé, qu'on peut être désiré, qu'on peut avoir notre place et avoir confiance en nous. C'est quelque chose qui peut servir à tout le monde, je pense.
A priori, ouais, ça devrait pouvoir aider. Vous dites être passé de la honte à la fierté. La honte, en elle-même, si on y revient un tout petit peu, vous comprenez avec vos études et avec le militantisme, vous mettez un mot dessus, sur ce rejet, là où vous l'avez toujours vécu comme quelque chose qui venait de vous, que vous aviez peut-être provoqué parce que vous n'aviez pas assez, nous disiez-vous, effacé votre handicap, tout à coup vous entendez le mot handiphobie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la handiphobie et sur quoi ça repose ?
Du coup, la handiphobie, c'est la peur des personnes handicapées. Donc du coup, ça va être... Ça...
Mais pourquoi elles font peur ? Qu'est-ce qui dérange au fond ?
Je pense que fondamentalement, c'est la peur de la mort. Parce que le handicap, je pense que dans un inconscient, plus ou moins conscient, je ne sais pas à quel niveau on peut le situer, mais le handicap est rattaché à la mort. C'est la déchéance du corps, c'est le corps qui s'affaiblit, qui perd des capacités, et qui du coup se rapproche plus ou moins, de façon plus ou moins importante de la mort.
Donc ça veut dire qu'une personne handicapée à de multiples niveaux est un miroir sur nous, et c'est ça qu'on ne veut pas trop regarder ?
Oui, tel que c'est pensé dans la société validiste, je pense, oui. Mais justement, c'est ce que les luttes anti-validistes essaient de changer. C'est-à-dire de montrer que ce n'est pas le cas, que tout ça, c'est des préjugés, c'est le validisme qui est à l'œuvre et qui fait penser le handicap de cette façon, mais qui peut totalement être pensé autrement.
Alors, vos travaux de recherche et vos engagements militants vont avoir une conséquence imprévue, Charlotte Puiseux. Vous allez sur Internet. Et entre deux lectures de Disability Studies, vous surfez sur des sites de rencontres. Jusqu'à ce qu'un certain Doctor Who fasse une apparition dans votre vie. Et c'est le moment de nous dire ce que fout Doctor Who dans cette émission ce soir, s'il vous plaît, Charlotte Puiseux.
Bon, mon compagnon, il est un peu geek, il est très fan de Doctor Who. Et du coup, quand je l'ai rencontré, on a regardé toutes les séries de Doctor Who, que moi, je ne connaissais pas, je ne vous le cache pas.
Parle quand même de la plus longue série de science-fiction de tous les temps, mais vous, vous ne connaissiez pas.
Non, je ne suis pas...
On fait des tests de philo, et par contre, Doctor Who, on ne connaît pas.
Hein. C'était pas trop mon domaine, mais du coup, maintenant, je suis incollable.
Qu'est-ce qui fait qu'après toutes ces années où la question de l'amour et de la sexualité était si compliquée, qu'est-ce qui fait que vous avez le déclic ? Parce que c'est pas simple d'aller sur un site de rencontre pour personne. Qu'est-ce qui fait que vous avez le déclic et vous dites « Ok, je m'inscris, j'y vais ».
En fait, il y avait une sorte de ras-le-bol. C'est vrai que j'étais à une période en fait, où je venais de finir mon master de psycho. Du coup, j'allais commencer ma thèse. Mais donc, du coup, je ne l'avais pas encore commencé. C'était vers la mai-juin. Et je me suis dit, tiens, bon, là, t'as 4-5 mois. Où t'es...
J'ai 4-5 mois à tuer, je vais pécho.
Voilà, t'es libre, en fait. J'étais pas occupée par mes recherches, mes travaux, etc. Et d'un autre côté, je me disais, bah, qu'est-ce qui cloche dans ta vie depuis tant de temps? C'est les rencontres amoureuses et pourquoi, enfin voilà, pourquoi t'arrives pas à rencontrer quelqu'un, à séduire, etc. Après, je sais aussi avec le recul que voilà, je me suis interdite beaucoup de choses. J'ai pas osé. Aujourd'hui, avec le recul, je m'en rends compte. Hein, mais encore une fois, après, je me jette pas la pierre non plus. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, comme j'ai pu. Mais du coup, là, j'étais arrivée à un moment donné où je me suis dit, bah, qu'est-ce que t'as à perdre en fait? Qu'est-ce que t'as à perdre? Donc, vas-y, lance-toi. Inscris-toi, tu verras ce qui va se passer. Tu t'en fous de voilà si s'il y en a qui te voilà qui sont pas très sympas avec toi parce que faut s'y attendre quand même hein, clairement. Et je me suis lancée voilà et quelques mois après du coup bah j'ai rencontré mon compagnon.
Alors on dit souvent que les sites de rencontre c'est la vraie vie mais en pire. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que la handiphobie elle est plus sur les sites de rencontre et les applis ou?
Alors moi je suis pas du tout contre les sites de rencontre. Je trouve que c'est un outil génial. Mais c'est clair que c'est un condensé de beaucoup de choses. Donc, y compris de l'handiphobie et de, du rejet des personnes handicapées qui peut être dans la société. Donc, clairement, il faut quand même se préparer à recevoir des remarques pas très agréables, à côtoyer des individus pas forcément voilà, très sympathiques. Ouais. Voilà, c'est un monde où il y a des codes et après, ça peut avoir des chouettes résultats aussi.
Alors, le chouette résultat, en l'occurrence, c'est votre compagnon. Qu'est-ce qui fait qu'avec lui, ça marche?
Ben après, lui, du coup, il est aussi en situation de handicap, mais il a un handicap très différent du mien. Donc, c'est vrai que du coup, parce que bon, comme beaucoup de personnes handicapées, je me disais toujours, oui, ben, je ne sortirai pas avec une personne handicapée, parce que déjà, techniquement, ça ne va pas être très facile. Parce que, comme beaucoup de gens, pour moi, handicapé, c'était personne en fauteuil. Voilà, je pensais surtout à mon handicap, en fait. Donc déjà, techniquement, je me disais, bah, ça va être compliqué. Et puis oui, cette idée de ne pas s'enfermer. Beaucoup de personnes handicapées disent, oui, je ne vais pas m'enfermer dans le monde du handicap et tout. Donc a priori, voilà, j'étais un peu comme ça au début. Et en fait, avec lui, j'ai découvert que ce n'était pas du tout ça. Justement, j'ai appris plein de choses. J'ai appris qu'on pouvait être complémentaire. Bon, il a une maladie de peau, notamment. Et donc, c'est très différent de mon handicap. Donc bon, techniquement, ça ne l'empêche pas de m'aider, puisqu'il fait aussi mon auxiliaire de vie. Et puis j'ai découvert vraiment plein de choses sur le handicap que je ne connaissais pas malgré ma situation de personne handicapée, ce qu'on appelle voilà les handicaps invisibles et tout ce que ça pouvait représenter. Ouais. Et en fait, je pense quand même que c'est ça qui nous a connectés parce que je pense que lui, de son côté, il était dans une idée aussi où bah pour le coup, lui, il cachait beaucoup son handicap. C'est entre guillemets la chance et la malchance des personnes qui ont un handicap invisible, c'est que peuvent choisir, entre guillemets, même si c'est un choix qui coûte souvent très cher, de cacher ou pas leur handicap, souvent au prix d'efforts inconsidérables. Mais du coup, lui, il avait beaucoup intériorisé le fait de devoir cacher son handicap, de ne pas en parler autour de lui. Et je pense que du coup, voir quelqu'un qui revendiquait son handicap comme un objet de fierté, comme quelque chose de positif, ça lui a fait du bien aussi, en fait.
Et donc, complémentaire, vous cheminez, vous vous voyez, vous vous aimez, vous installez ensemble. Quelques années plus tard, vous vous retrouvez à chanter ceci, Annie Kuni Shawani, cantine amérindienne. Je vous vois lever les yeux au ciel, mais je vous comprends, car moi-même, ce genre de comptine qui me reste en tête, je peux lever les yeux au ciel par anticipation. À qui vous la chantez, cette chanson?
À mon enfant. Alors c'est drôle parce que du coup, on a commencé à lui chanter avant que cette version sorte. Et du coup, quand elle est sortie, là, celle de Polo et Pan, mon fils, il était tout content. Il disait « Ah, y'a des cougnets, y'a des... » C'était parce qu'on lui a chanté, enfin surtout moi d'ailleurs, c'est la chanson que je lui chante tout le temps, qu'il adore que je lui chante.
Alors on va rembobiner un tout petit peu. Au moment où vous êtes enceinte, quelles sont les réactions autour de vous quand vous dites que vous attendez un enfant?
Bon, ça n'a pas été facile parce que voilà, bon après, avant d'être enceinte, avec mon compagnon, on avait quand même pris un an en fait pour réfléchir aux professionnels de santé qu'on voulait comme accompagnants à Nantes. rencontrer aussi d'autres parents en situation de handicap. Voilà, essayer de comment d'installer un peu un climat plus ou moins de confiance autour de cette grossesse. Bon, ça n'a pas toujours bien marché, mais parce que bon, c'est vrai que les professionnels de santé, c'est compliqué déjà.
Qu'est-ce qui est compliqué?
Bon, déjà, il y en a peu quand même qui suivent. Enfin, après, ça dépend des types de handicap. Moi, j'ai un handicap du coup par rapport à ce que vous disiez sur mes problèmes respiratoires qui fait que. C'était une grossesse considérée à haut risque, donc ça veut dire peu de médecins et d'hôpitaux qui prennent en charge ces grossesses. Donc déjà, on n'a pas un choix immense. Après, bon...
Vous dites que j'ai été dépossédée de ma grossesse, ça veut dire quoi?
Bah oui, parce qu'on est vu comme des cas cliniques, en fait. Je pense que c'est déjà un peu le cas pour toutes les femmes enceintes. J'ai l'impression quand même que, voilà, il y a un peu comme ça... la pathologisation de la grossesse, comme on dit. Bah alors, quand c'est en plus une personne... handicapée comme moi, avec une fonction vitale quand même assez impactée, forcément, ça devient ultra médicalisé. Et du coup, on oublie en fait la personne concernée, à savoir moi.
C'est-à-dire vous n'êtes plus un sujet.
Non, voilà, c'est ça. Je suis objet de soins, là, pour le coup. Et puis...
Vous redevenez objet de soins. Voilà. Alors, vous avez passé des années de militantisme à vous en dégager. Vous redevenez un objet de soins. Une fois que l'enfant est là, pareil, on vous considère comme incapable. Et ce que vous dites est très intéressant, c'est qu'on ne dirait pas la même chose d'un homme.
Non, je pense quand même qu'il y a
D'un père handicapé que d'une mère handicapée.
Je pense que là, il y a le patriarcat qui rentre en jeu, quoi. Donc en fait, en tant que femme, on dit, on est censé, en tant que femme, s'occuper malgré tout des enfants. On est quand même identifié comme la personne pourvoyeuse de soins, qui va s'occuper de l'enfant, etc. Donc quand on est handicapé et que du coup on est comme ça, on a d'autres façons, moi je préfère dire, de s'occuper de notre enfant, mais c'est des façons qui ne sont pas considérées justes par la société.
Et c'est ce que vous dites d'ailleurs, vous dites justement, c'est un très bel exemple de comment la personne handicapé ou comment tout ce qui sort de la norme finalement peut faire bouger le centre, c'est que ça peut permettre de repenser la parentalité et pour tout le monde.
Bah oui, je pense que justement, c'est aussi un combat féministe. Là, c'est un exemple que je donne souvent pour parler des jonctions entre les luttes antivalidistes et les luttes féministes. La question de la maternité des femmes handicapées, je pense qu'elle peut apporter beaucoup au féminisme parce qu'en fait, ça permet de repenser un soin des enfants collectif. Pour moi, en tout cas, j'ai eu besoin d'aide extérieure. Et sans pour autant perdre ma place de maman. Et du coup, je pense que c'est aussi pour toutes les personnes, par exemple, qui souffrent de postpartum ou de dépression due à la maternité, etc. Ça peut aussi être des luttes utiles.
Dans votre essai de chair et de fer, vous écrivez « Météorites, nous ferons disparaître cette ère du validisme tout-puissant. Nous nous abattrons en pluie d'étoiles, faisant briller nos corps, nos vies, nos êtres et l'humanité tout entière. J'entends déjà les volcans gronder, prêts à déverser le feu et réduire en cendres toute trace de domination. Les voix qui s'élèvent aujourd'hui proposent une autre histoire, celle racontée depuis la marge, les bas-côtés, le caniveau même, celle dont le centre ne veut pas pour ne pas risquer de perdre ses privilèges, mais celle qui s'écrit quand même à la force des luttes. »
Oh,
beaucoup à Terra House Montré. Vous êtes sur France Inter. À la technique ce soir, c'est Clément Vuillet. À la réalisation, Marie-Annick Rimbaud. Ophélie Vivier, chargée de programmation. Bien entendu, c'est Djoubaka qui assure l'accompagnement musical de la balade En Marge. Vous retrouverez toute sa playlist à la page de l'émission, pile poil à l'endroit où vous pouvez nous podcaster et sans aucune modération.
En Marge. Sur France Inter.
Bien. Et maintenant, si on regardait devant, mais alors loin devant, jusqu'à après nous, dans un bout du temps où on aurait tout le temps face à nous-mêmes, à la vie qu'on a menée, au combat qu'on a mené, à ceux qu'on a perdus, au point qu'on a marqué. Vous, Charlotte Puiseux, là-bas, tout là-bas, vous écouteriez ceci. Et oui, pour l'éternité. Je peux mourir. Titre personnel, je peux mourir. Donc Jean-Jacques Goldman et Michael Jones en boucle. Même pas peur, Charlotte Puiseux?
Bah non, parce que après, c'est une chanson que j'ai écoutée aussi quand j'étais petite.
Non, mais vous avez raison, moi aussi. En vrai, j'avais le poster de Jeanne Masse et de Jean-Jacques Goldman dans ma chambre, donc j'ai rien à dire.
Après, j'ai été très nourrie des variétés françaises, hein, clairement.
Et donc celle-là, parce que...
Bah en fait, c'est surtout sur l'aspect transmission. Voilà, c'est, je trouve des paroles assez simples, mais qui reflètent ce que j'aurais envie de laisser en quelques mots par mon enfant déjà, et puis aussi au-delà, aux personnes voilà, qui ont pu me connaître ou lire ce que j'ai écrit. Voilà, l'idée déjà de donner aux autres, je pense que c'est essentiel. Moi, c'est ce qui m'a conduit aussi à ici, qui je suis, c'est tout ce que j'ai reçu, l'amour que j'ai reçu, clairement. Et puis voilà, la phrase « Je te donne tout ce que je suis, ce que je veux, mais dont mes défauts ». Voilà, j'espère que mon enfant, surtout, je pense à lui, saura reconnaître que les défauts sont autant de chances que ce qu'on nous a inculqué comme étant des défauts. Bah, en fait, on peut les transformer en chances. Encore une fois, je pense en rencontrant les bonnes personnes et en puisant dans l'amour qu'on peut recevoir.
Alors, sur cette bande-son, vous partez loin. Vous emportez avec vous un objet, celui qui vous raconte, celui qui vous incarne, c'est quoi cet objet?
Bah, j'ai choisi mon fauteuil roulant, mmh. Alors, même si ce n'est pas le même depuis que je suis née, hein, bien sûr, mais c'est quand même l'objet qui me... enfin, voilà, que je ne pourrais jamais me séparer de mon vivant, en tout cas. Et bon, après, je ne sais pas si ça sera utile ou pas, mais...
Quel rapport est-ce que vous avez avec lui?
Bah, en fait, ce qui... C'est une partie de moi, en fait, c'est une partie. Mmh. On dit souvent, et je ne suis pas la seule à le dire, hein, c'est un prolongement de mon corps. Ouais. C'est-à-dire que le fauteuil roulant, pour, bah, justement, dans l'imaginaire validiste, il est un peu, enfin, beaucoup même diabolisé. On le voit souvent comme le symbole du handicap, cette chose horrible. Mais ça, c'est très validiste. Parce
mais donc,
fait,
ça vous plaît aussi, parce qu'il est transgressif?
Oui, d'une certaine façon, mais en tout cas, pour moi, il est symbole de liberté. Mais pas que pour moi, je l'entends autour de moi. Chez des personnes qui utilisent aussi des fauteuils, c'est la liberté, le fauteuil roulant.
Alors, derrière vous, comme trace de vous, les mots que vous laisseriez seraient les vôtres, un poème que vous publiez dans votre livre, D'où partir, où aller, un livre pour se livrer, pour délivrer les mots et soigner tous les mots. Dans mon cœur, un séisme, celui du validisme, de sa vague déferlante, les rafales incessantes, des balles qui trouent ma peau, cicatrices en bataille, des tirs dont les échos résonnent dans mes entrailles. Ma chair cherche la paix, mais je sens que mon sang bout sous mon épiderme. Vous pouvez être inquiet, j'entends venir le temps de nos combats qui germent. Merci Charlotte Puiseux.
Merci à vous.
De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste. C'est aux éditions La Découverte En Marge. C'est terminé pour ce soir. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.